Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin dans la matinale est Marc Le Fur, conseiller régional de Bretagne, ancien député des Côtes d'Armor dans la circonscription de Lamballe-Loudéac. J'ajouterai figure de la politique bretonne, à la parole souvent rare et mesurée. Il est avec nous ce matin, je l'en remercie. Bonjour Marc Le Fur.
Bonjour.
Alors Marc Le Fur, j'ai envie de vous poser une question un petit peu plus personnelle avant de commencer cette interview. On sait que vous vous êtes retiré, en tout cas vous avez mis un peu la vie politique entre parenthèses pour soigner un cancer. Vous avez décidé de le rendre public. Pourquoi l'avoir rendu public et surtout comment allez-vous aujourd'hui ?
Ça va, si vous voulez. Le sujet, c'est que effectivement, je suis atteint d'un cancer. Normalement, tout cela se soigne. Le problème, c'est que j'aurais dû m'en occuper avant. Et j'invite d'ailleurs les femmes, les hommes, à faire toutes les analyses nécessaires pour détecter ce type de maladie qui est tout à fait traître dans la mesure où il n'y a pas de douleur qui alerte. Il n'y a pas de diminution particulière de l'activité physique. Donc, il faut faire des analyses. Il faut se prendre par la main. Je sais que c'est toujours un peu compliqué d'en faire parce que on veut penser à autre chose. On refuse d'aborder ce type de sujet. Donc, vraiment, j'en profite pour le dire. Donc, atteint par cette maladie, je sentais que je n'aurais pas pu être aussi disponible que je pouvais l'être par le passé. Donc voilà, j'ai suivi des soins, j'irai au résultat à la fin de l'été et avec les médecins nous aviserons, mais ce combat j'ai bien l'intention de le mener et de le gagner.
Voilà, vous êtes un gagneur, je ne sais pas comment on peut dire, Marc Le Fur, vous tracez votre route, en tout cas votre route politique sur le terrain, on vous voit partout, c'est souvent lorsqu'on dit Marc Le Fur, mais on le voit partout. Est-ce que ça a été cruel pour vous de vous mettre entre parenthèses? Est-ce que ça va un petit peu vous manquer cette activité?
Ben, si vous voulez, j'ai été dans ce combat politique autour de la députation pendant 31 ans. J'ai été élu pour la première fois en 93 et à 6 reprises, les électeurs m'ont accordé leur confiance. C'est un grand honneur, c'est une grande satisfaction aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'Assemblée, j'y ai exercé des responsabilités. J'ai été pendant 15 ans vice-président, j'ai été, je crois, parmi les parlementaires les plus actifs. Et en même temps, j'étais sur le terrain. On fait tout ça parce qu'on aime ça, on aime les gens, on aime les rencontrer, on aime échanger, on aime les représenter, c'est-à-dire parler en leur nom, c'est très fort comme situation. Donc maintenant, il revient à d'autres d'exercer ce mandat, mais je reste dans la vie politique, je reste conseiller régional, j'ai toujours des responsabilités dans le cadre des Républicains. Donc tout ça existe, mais d'une manière ou d'une autre, je retrouverai d'autres activités. Tout cela reste à définir. Pour le moment, la grande satisfaction, c'est que la transmission est assurée. Corentin Le Fur était prêt. Il a fait une très belle campagne, très très belle campagne. Nous avons été très soutenus. 4 réunions. Le nombre de personnes qui ont participé aux réunions, c'est un témoignage. 800 personnes, 500 personnes, 600 personnes, la dernière réunion, 650 personnes. Tout ça est révélateur d'un soutien populaire très réel. Ça implique pour lui des responsabilités. Je suis convaincu qu'il les prendra à bras le corps.
Voilà, il trace sa route dans les pas de son père. Voilà. Marc Le Fur.
Dans ses propres pas, surtout.
Et dans ses propres pas, évidemment.
Et voilà, effectivement, il a une formation qui le prépare à tout ça, mais maintenant c'est à lui de piloter. Il appartient à une génération qui n'est pas la mienne. Il a des centres d'intérêt multiples. C'est à lui de piloter, mais en tout cas, je suis convaincu qu'il le fera avec quelques fondamentaux auxquels j'étais moi-même attaché, c'est-à-dire proche des gens, proche de leurs préoccupations et soucieux de se donner à plein pour exercer ce très beau mandat.
Le terrain, toujours le terrain. Alors on va en parler du terrain parce qu'aujourd'hui, il y a eu une alerte. Les électeurs ont décidé de porter leur suffrage vers le Rassemblement National, qui s'installe tout doucement dans le paysage français, mais aussi dans le paysage breton, et ça c'est un petit peu plus rare pour que ce soit souligné. Comment vous avez vécu ces législatives, Marc Le Fur ? Alors, plutôt du point de vue des résultats et de tout ce qui s'est fait autour de ces législatives, on a eu un climat quand même très tendu, très violent, même parfois par les mots, voire même par les atteintes physiques. Quel regard vous portez, vous qui vous êtes un petit peu mis en retrait ?
Alors, d'abord, je voudrais dire que cette violence, globalement, n'a quand même pas gagné notre secteur. Hein. Tout s'est fait de manière très, très démocratique, dans la circonscription, et il n'y a pas eu d'excès de part et d'autre. Ça, je tiens à le dire. Ces votes expriment une colère, un sentiment d'abandon, un sentiment de déclassement. Ça s'était manifesté très clairement déjà aux européennes, ça s'est manifesté dans d'autres circonscriptions, et il se trouve que ceci a été très sensiblement atténué dans notre circonscription, parce que les gens ont le sentiment que la démocratie fonctionne, qu'ils connaissent leurs députés, qu'ils connaîtront demain leurs nouveaux députés, qu'ils ont des occasions de faire passer des messages. Si on appuie ça, là, pour le coup, ça peut être très dangereux. Pour moi, là, il y a une adéquation entre la démocratie et la proximité. La démocratie, c'est connaître ses élus, c'est pouvoir leur parler, pouvoir échanger. Alors, ils résolvent pas tous les problèmes, bien évidemment, mais en tout cas, ils sont là, ils sont présents, et ils écoutent. Ils écoutent, évidemment, ils ne peuvent pas adhérer à tout ce que disent les gens, hein. Il faut bien arbitrer, bien évidemment. Mais en tout cas, ils écoutent. Et c'est vrai que dans bien des endroits, cette relation de proximité n'existe plus. Et on arrive effectivement à ces votes extrémistes, extrême gauche, extrême droite, qui sont, je crois, pas satisfaisants pour l'avenir du pays.
Alors, on a aujourd'hui une situation particulière, on dit même historique, avec une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité, sinon une majorité relative, et encore pour tous les groupes qui sont présents. Les Républicains ont beaucoup tangué pendant ces élections. Ils sont là avec, j'allais dire une majorité, enfin, en tout cas une représentation de plus de 80 sièges, je crois. Vous allez me corriger si je vous dis une bêtise. Est-ce que vous avez eu peur à un moment, Marc Le Fur, que les Républicains disparaissent purement et simplement après le fait que Éric Ciotti, par exemple, ait rejoint le RN?
Alors, toutes les formations politiques ont tangué, de fait. Hein, ça a été très très net dans le monde macroniste, pour parler simple, et ça l'est encore au demeurant. Nous aussi, on a eu nos sujets. On a eu cette dérive Ciotti. En fait, il a été très peu suivi, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Nous étions 62 députés, simplement, il a été suivi par une seule collègue, en quelque sorte. Donc ça ne représente pas grand-chose, en termes au moins d'effectifs. Mais c'est vrai que ça nous a gênés, objectivement. Ça a compliqué les choses, il a fallu réexpliquer en permanence cette affaire. Alors, les Républicains reviennent à l'issue des élections à peu près dans la même configuration qu'auparavant. Les groupes sont en train de se constituer, donc le nombre est difficile à apprécier. On devrait être à peu près aussi nombreux qu'auparavant. Mais il n'empêche que c'est un petit groupe aujourd'hui. Mmh. Hein. Il y a d'autres forces politiques. Le RN existe. Il a très sensiblement augmenté. Il espérait bien évidemment plus, mais il a très sensiblement augmenté. La gauche est présente, très présente, sans doute très divisée. Mmh. On le voit, puisqu'ils ne sont pas en mesure, à ce stade, de mettre un nom en avant pour exercer des responsabilités à Matignon. Comment ça se passe ? C'est le président de la République qui décide. Mais évidemment, les partis politiques se mettent d'accord et le président de la République se doit de suivre, au moins d'écouter ce qui se passe à l'Assemblée. Le monde macroniste sort très divisé. Très 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 déçu par les décisions du président de la République. Donc tout ça est à voir. Maintenant, ce que je crains, ce que je redoute, ce que je déplore, c'est que on est en train de rentrer dans une logique quasiment de quatrième République. C'était quoi la quatrième République ? C'était l'incertitude. C'était des gouvernements qui existaient pendant peu de temps. Voilà. Et ça, c'est dû à la configuration de l'Assemblée, c'est vrai, mais nous, dans notre tradition républicaine, nous ne souhaitons pas du tout rentrer dans cette logique de la 4ème République. Il faut que les choses soient claires. Pour nous, les choses sont claires. Nous nous défendrons, à l'occasion de tous les textes qui nous sont présentés, des idées qui sont les nôtres, c'est-à-dire priorité au travail, priorité à celles et ceux qui font l'effort de travailler, qui concourent à la richesse du pays, et qu'il ne faut pas décourager, ça c'est fondamental, respecter le pouvoir d'achat des uns et des autres, des actifs bien évidemment, mais aussi des retraités, il y a une vraie menace sur les retraites, hein. Le sujet, c'est pas simplement l'âge de la retraite, comme voudrait nous faire croire. Le sujet, c'est le paiement des retraites. Mmh. Notre pays sort exsangue de ces 7 années de macronisme, puisqu'on a dépensé de manière tout à fait excessive. Hein. Donc il faut revenir à des considérations de bon sens. Comme dans une famille, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Et ça, ça a été très clairement oublié par la gestion gouvernementale passée.
Vous en voulez à Emmanuel Macron d'avoir eu cette mauvaise gestion de la France, puisque c'est ce que l'on pointe aujourd'hui, mauvaise gestion qui conduit d'ailleurs les agences de notation, qui donneront bientôt leur nouvelle note, à pointer du doigt le déficit et peut-être encore une fois à dégrader la note de la France, ce qui serait assez déplorable pour les marchés.
Oui, aujourd'hui, la première dépense du budget, c'est ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire payer les intérêts de la dette. Puisque, en plus, les taux d'intérêt ont monté, ils diminuent peut-être un peu depuis quelques temps, mais globalement, ils ont monté, donc c'est très lourd. Et en fait, payer les intérêts de la dette, c'est payer les dépenses d'hier qu'on n'a pas su payer hier, ça veut dire ça, hein. Ça veut dire aussi très clairement faire payer à des jeunes générations des dépenses qui ne leur ont pas profité. Quand on s'endette pour acheter sa maison, pour construire des routes, pour réaliser des investissements, c'est cohérent puisque ça va servir à l'avenir. Donc c'est pas illégitime que les générations futures payent puisqu'elles profiteront de cela. Mais là on est en train de payer pour des dépenses qui étaient des dépenses de fonctionnement de notre système de sécurité sociale, de notre État qui est aujourd'hui inadapté à la situation du moment.
Alors, on a 7 ans de macronisme derrière nous, on a le président de la République qui, une fois encore, interpelle les Français à travers la presse régionale en écrivant cette lettre et en ayant ce mot aussi pour les parlementaires, en disant « moi je veux bien nommer un Premier ministre, mais à condition qu'il y ait une coalition ». Alors, coalition, c'est pas un mot qu'on a l'habitude de prononcer ici en France, ça se fait dans d'autres pays européens. Est-ce que vous y croyez, vous, Marc Le Fur, à cette possible coalition ?
Qu'est-ce qui sortira du chapeau ? Personne ne le sait. Tout ça résulte d'une dissolution totalement manquée. On sent un sentiment d'inquiétude. Ce que j'espère, c'est qu'un gouvernement va se constituer, hein. Globalement, c'est vrai, c'est l'ensemble de gauche qui est en tête. Mais aujourd'hui, il est trop hétérogène pour sortir un potentiel Premier ministre. Donc, il faudra peut-être trouver d'autres solutions. En tout cas, à un moment donné, quand le gouvernement sera constitué, des textes passeront à l'Assemblée. Et c'est ça qu'il faudra voir. Est-ce que les textes vont dans le bon sens ? À ce moment-là, ça me paraît légitime que les députés républicains les votent. S'ils vont dans le mauvais sens, nous nous opposerons, bien évidemment.
LR, les Républicains sont très courtisés en ce moment. On entend beaucoup d'expressions autour de votre formation politique. Celle d'Édouard Philippe, par exemple, qui chez nos confrères de TF1 mardi a dit « Moi, je suis de droite et je pense qu'on peut discuter avec la droite, je pense qu'on peut discuter avec les Républicains. » Est-ce que vous imaginez un jour un rapprochement avec Édouard Philippe, avec Horizon ?
Le but, c'est pas de participer à une quelconque coalition gouvernementale. Les choses sont très claires. Mais par contre, à un moment donné, il faudra concourir à la gestion du pays par le vote à l'Assemblée. C'est une réalité. Le paradoxe, c'est que nous sommes aujourd'hui courtisés par des gens qui ont voulu notre mort hier. Hein. Donc les choses soient bien claires. Il n'y a pas que le Rassemblement national qui a voulu notre mort. Hein. Il y a la gauche, bien évidemment. Et puis, il y a Édouard Philippe et d'autres. Hein. Donc, voilà. Édouard Philippe, il a certainement ses qualités, mais moi je me souviens aussi que c'est celui qui a tué Notre-Dame-des-Landes, qui était une occasion gigantesque pour la Bretagne et pour l'Ouest en général, d'accéder à un niveau d'infrastructure extrêmement satisfaisant, nous permettant de nous connecter à l'Europe et au monde. Et ça, ça a été un grand loupé, il a cédé à des voyous, et moi je suis toujours très inquiet quand on cède, quand quelqu'un qui prétend exercer des responsabilités cède à ce point à des voyous. Ça a été la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on s'en souvient. C'est maintenant les bassines, c'est les problèmes qu'on a à Nantes en particulier. Tout ça résulte des décisions gouvernementales qui ont été des erreurs.
On a entendu ce matin la gauche proposer quelques noms. On a même entendu le nom d'Olivier Faure proposé pour être Premier ministre. Là encore, ça ne fait pas l'unanimité à gauche. Et puis, il y a le... J'allais dire l'ombre de Jean-Luc Mélenchon. Vous imaginez, vous, Marc Le Fur, demain, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre ?
Je connais Jean-Luc Mélenchon, j'ai été son collègue. Je constate que dans ce monde de la gauche, c'est lui le plus fort. Mmh. C'est lui le plus fort, c'est lui qui a le plus gros groupe, c'est lui qui est très, à la fois très habile et très, très, très investi. Donc, méfions-nous. Faure, jusqu'à présent, a été aux ordres. Alors, qu'est-ce qu'il en sera demain ? Je n'en sais rien. Mais jusqu'à présent, il était aux ordres de Mélenchon. Donc, je constate, pour rencontrer encore beaucoup de gens depuis ces élections, l'inquiétude des gens. On ne veut pas de l'application de ce programme qui aurait pour effet de ruiner l'économie française.
Alors, il y a une attente des Français, des Bretons, on le disait tout à l'heure, en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité, aussi en termes d'immigration. On a entendu beaucoup ce thème pendant la campagne électorale. Il y a beaucoup d'attentes. D'un point de vue social, on a un programme de gauche qui est un programme social, en tout cas qui met toute la valeur sociale en avant, avec par exemple des mesures. Là, on pense au SMIC à 1600 euros. On entend des chefs d'entreprise qui disent... de petites entreprises qui disent « moi je ne pourrai pas parce que ma trésorerie ne suivra pas ». C'est quelque chose qui vous inquiète, ça aussi, ces mesures mises en avant ?
Alors nous proposons autre chose. Corentin Le Fur en particulier l'a dit durant sa campagne. Le but, c'est d'augmenter le salaire net. Le salaire net, c'est ce qui est en bas de la feuille de paye à droite, qui arrive sur le compte de la personne. Ça, il faut l'augmenter. Alors, en prenant un calendrier, tout ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, et aussi en faisant en sorte que pour les entreprises, ça ne coûte pas plus cher. Donc il faut de ce fait réduire toutes les charges qui sont très lourdes. C'est une singularité française, des charges très lourdes. Tout ça peut se faire, tout ça a été chiffré, tout ça prendra du temps, il faut le faire dans le temps. Une augmentation massive du SMIC serait une erreur. Nous l'avons dit, une illusion, parce que ça se traduirait en inflation et ça se traduirait par des dépôts de bilan d'entreprises, de PME en particulier. Donc, et notre secteur risquerait d'être terriblement impacté. L'agroalimentaire est un secteur fragile, c'est celui qui emploie le plus de monde aujourd'hui. C'est un secteur qui a eu le mérite de créer beaucoup d'emplois. C'est un secteur qui est très adapté à la Bretagne, avec ce socle agricole. Il ne faut surtout pas casser ces entreprises, parce qu'elles ne se referont pas. Mmh. Or, aujourd'hui, on a des difficultés potentielles dans ce secteur qui peut être fragile. Donc, attention, attention.
Voilà, prudence économique. Alors justement, on parle d'agriculture, on a aussi tout un volet environnement hein, dans le programme de la gauche. On a reproché souvent à la droite de ne pas être assez présente sur l'environnement. On a, vous le dites, Marc Le Fur, une terre ici à Agricole. On a aussi beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire, souvent pointées du doigt par les organisations écologistes. Est-ce que là aussi, il faut une prudence dans la mutation, dans le changement du modèle agricole ?
Il faut ne pas oublier les élections. Les élections ont démontré très clairement que ces excès écolos, les Français n'en veulent pas. Ils veulent garder leur liberté, ils veulent pouvoir travailler, ils veulent pouvoir vivre sans en permanence se voir imposer une paperasse dont la justification serait une écologie mal comprise. Donc ça, c'est très très net, et j'espère qu'on va en tirer quelques conséquences, non à ces groupes qui font obstacle à toutes les initiatives. Il faut encourager les initiatives dans ce pays. Alors, comme toute initiative, parfois, ça peut ne pas marcher, ça peut louper. Mais s'il n'y a pas d'initiative, notre pays va s'enfoncer, en quelque sorte. Donc, ça, je crois que très clairement, et c'est très net, hein, à droite, à gauche, tous les partis ont mis entre parenthèses ce qu'ils disaient hier sur un certain nombre de dérives écologiques.
Alors, l'écologie, l'environnement, c'est une chose, l'économie, c'en est une autre, et la sécurité en est encore une autre. On a entendu beaucoup d'expressions, beaucoup ferraillées, hein, si vous me permettez le terme, Marc Le Fur, autour de la sécurité, et souvent associée à l'immigration. On a une interrogation aujourd'hui, comment accueillir les populations qui viennent d'autres pays, comment les accueillir dignement, comment les répartir au sein de l'Europe. Là aussi, il y a un dossier important à traiter rapidement.
L'immigration a été massive et incontrôlée. Ça l'a abouti à des conséquences redoutables dans un certain nombre de villes, mais y compris chez nous, objectivement. Donc il faut réguler ce phénomène migratoire, il faut expulser ceux qui résident chez nous sans en avoir le droit, hein. Chaque pays a le droit de définir qui il accueille, c'est un principe de base. Tout ça doit se faire dans une logique d'humanité, bien évidemment, mais tout ça doit se faire. Et donc, le message, là aussi, a été très clairement énoncé par nos compatriotes. Si on ne le fait pas, eh bien, c'est des portes ouvertes encore à un électorat RN qui ne cessera de se développer. Donc, il faut le faire très clairement. Évidemment, les questions migratoires sont associées aux questions de sécurité. Arrêtons de faire semblant de croire le contraire. Bien évidemment, ici, associées. Dans notre secteur, j'avais obtenu comme député, et ça va se mettre en place, la création d'une brigade de gendarmerie à Colinet, qui avait été supprimée par la gauche, rappelez-vous-en. Maintenant, elle va être recréée. 8 gendarmes arrivent le 1er septembre à Colinet, s'installeront momentanément dans des locaux dans l'actuelle mairie, avant que ne se construise la future gendarmerie. Donc dans un premier temps, 8 gendarmes le début septembre de cette année, et on aura par la suite des effectifs de 10 gendarmes. Donc ça veut dire que dans ce secteur où la question de sécurité avait pris une grande dimension, on se donne les moyens de résoudre le problème.
Car on voit aussi, on parle souvent de sécurité dans les villes, mais on voit aussi des campagnes qui sont préoccupées. On voit le trafic de drogue, hein, par exemple, qui se développe dans les campagnes. Aussi, parfois, une forme de communautarisme, même dans de petites bourgades, dans de petites villes. Est-ce que là aussi, il va falloir combattre ce communautarisme qui refuse finalement la culture française ?
Alors, je crois qu'il faut respecter les gens. Ils arrivent, ils arrivent peut-être avec des traditions qui sont les leurs, pourquoi pas, mais en tout cas, ils doivent faire des efforts d'intégration, ça va de soi. S'ils ne les font pas, ça pose un problème objectif, c'est vrai. En tout état de cause, le premier effort d'intégration, c'est de ne pas tomber dans la délinquance, et s'il y a des actes de délinquance, l'expulsion doit suivre très vite. C'était pas le cas. Monsieur Darmanin a beaucoup parlé, mais a peu agi sur ces questions.
Alors on a aussi une autre question qui préoccupe les Français, qui préoccupe aussi les Bretons au premier chef, c'est la santé, c'est le fait de pouvoir aujourd'hui aller à l'hôpital, se faire soigner, ne pas attendre des heures aux urgences, préserver les structures hospitalières publiques, et puis également trouver des médecins, parce qu'on n'arrive plus, ou pas facilement en tout cas, à trouver des médecins en Bretagne.
Là aussi, il y a
un grand plan à mettre en place.
Nous avions, il y a 10-15 ans, deux domaines dans lesquels on pouvait être très fier. On avait le meilleur système de santé au monde et un système d'éducation quasiment gratuit parmi les meilleurs du monde. C'était la réalité il y a 10-12 ans. Il y a 10-12 ans, on inaugurait un hôpital entre Loudéac et Pontivy, à Kerriot, qui avait coûté plus de 120 millions d'euros. On inaugurait un hôpital EHPAD à Quintin, 27 millions d'euros. Et tout ça s'est dégradé très vite. Mmh. Il ne faut pas laisser dire que c'était une situation depuis 20 ou 30 ans. Non, ça s'est dégradé récemment. Nous étions très fiers de notre système de santé. Alors, il y a des choses qui demeurent et qui sont très positives. Les gens qui sont atteints de maladies graves sont en ALD, etc., etc. Donc, bénéficient d'une solidarité nationale. Et c'est très bien. Mais maintenant, le sujet, c'est de trouver des personnels de santé. Les précédents gouvernements ont fait semblant, mais n'ont pas agi. Maintenant, il faut agir. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, il faut plus qu'inciter les médecins à s'installer là où c'est nécessaire, là où on attend d'eux une présence. C'est pas simple, mais ça doit se faire.
Marc Toffur, il nous reste 5 petites minutes. J'avais envie de vous entendre sur la suite. Comment vous imaginez la gouvernance de la France ? Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas de boule de cristal, et je l'entends. Mais vous qui êtes, permettez-moi le terme, un vieux routier de la politique, comment vous envisagez la suite ? Est-ce que la France va être gouvernable ? Est-ce que les Français ne vont pas se retrouver en attente de beaucoup de choses parce qu'il y a un système de blocage qui va forcément avoir des répercussions sur les territoires ? Est-ce que vous voyez plutôt... Allez, je vais dire l'éclaircie, ou est-ce que pour vous, l'horizon reste encore bouché ?
Alors, immédiatement, on peut être très inquiet. À terme, il y a des solutions malgré tout. À un moment donné, les Français choisiront leur président de la République, donc choisiront leur devenir, en quelque sorte. Tout ça interviendra. Mais à terme, je ne suis pas pessimiste. Dans le court terme, je ne vois pas très bien comment les choses vont s'organiser. Et ceux qui lisent dans une boule de cristal, ils se trompent bien régulièrement. En tout état de cause, il faut dans ce pays restaurer des fondamentaux. Il faut d'une manière ou d'une autre restaurer la valeur travail. Il faut d'une manière ou d'une autre respecter les territoires, ce qui n'a pas été fait. Rappelez-vous l'époque macroniste, on ne parlait que des grandes villes et des start-up. C'est pas ça la France, il y a un éloignement, tout à fait. Il faut relever le défi de la démographie. Le sujet, c'est l'effondrement de la démographie française. Donc, si la France n'a plus d'enfants, n'a plus de jeunes, ça veut dire que globalement, ce pays vieillira et d'autres prendront sa place. Nous étions la quatrième puissance économique au monde, nous sommes maintenant la septième. On n'est pas les seuls au monde. Des pays peuvent se développer très vite. L'Europe, d'une manière générale, a fait des choix erronés. Donc, en plus, la France a fait d'autres choix erronés. Donc, ça fait beaucoup. Je suis d'un naturel optimiste, mais le propre du gaullisme, c'est de dire que quand on est au fond du trou, il y a quand même des solutions. C'est le message du 18 juin. Nous étions au fond du trou le 18 juin 40. Le général de Gaulle a esquissé des perspectives qui étaient terriblement utopiques quand il les exprimait et qui se sont révélées raisonnables.
Voilà, revenir aux fondamentaux du gaullisme, en tout cas pour les Républicains. Un tout dernier mot, il nous reste une poignée de secondes, Marc Toffur. Il faut trouver la femme, l'homme providentiel pour conduire le pays, pour lui donner une perspective.
Il ne faut pas raisonner en femme ou en homme providentiel. Il faut trouver quelqu'un qui soit en adéquation avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire les besoins du pays, qui sache les expliquer simplement au peuple français, qui sache gagner sa confiance. Finalement, ça a existé par le passé. C'est peut-être un passé déjà assez lointain, mais ça a existé. Et il faut sortir de ce système où l'idéologie a dominé. Cette idéologie, on faisait croire que tout allait se régler par des start-up, où on faisait croire que... La réalité était belle sans travail et sans effort. Non, à un moment donné, une économie, c'est quoi ? C'est du travail, c'est de l'initiative, c'est de l'épargne. Il faut rappeler des fondamentaux.
Marc Toffur était avec nous ce matin. Marc Toffur, conseiller régional. Vous gardez votre mandat de conseiller régional de Bretagne, ancien député des Côtes d'Armor dans la circonscription de Lamballe, Loudéac. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et votre parole est précieuse. Et je vous remercie d'avoir choisi Bretagne 5 pour vous exprimer ce matin. Très belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.